Avant de poursuivre l'émission, je voulais simplement joindre ma voix à toutes celles qui s'élèvent ce matin pour rendre hommage à un grand homme, un grand Québécois, Serge Bouchard. J'ai été profondément attristée par l'annonce de son décès et j'envoie probablement, comme vous le faites de votre côté, nos plus sincères condoléances à ses proches, à sa famille. Serge Bouchard, que je souhaitais interviewer récemment pour vous parce qu'il venait de publier sa thèse, un autre livre, une thèse qui remontait à il y a longtemps, à l'époque où il était étudiant et où il avait fait une tournée dans les années 70 du Québec nordique à bord de camions. Puis c'était une saga des camionneurs du Nord qui raconte dans son nouveau livre du diesel dans les veines. Évidemment, on a beaucoup parlé de son livre « Un café avec Marie » où il rendait hommage à cet amour pour sa conjointe qu'il avait quittée. Ce matin, on parle de lui comme d'un enjoliveur de l'ordinaire. C'est un beau compliment, je trouve, pour un homme de lettres qui a fait une thèse sur les camionneurs, justement. C'est surtout aussi un homme, je voulais lui parler parce que je voulais qu'il me parle de sa capacité à rester un naïf émerveillé. C'est un peu comme ça qu'il se décrivait. Il avait toujours démontré une grande capacité aussi d'indignation. Puis c'est pas toujours facile, parce que j'essaye de le faire aussi, de rester indigné, mais tout en étant digne, avec une voix forte, rassurante. Lui, c'est un grand sage devant l'Éternel. Il avait toujours un regard aiguisé sur les choses et sur les enjeux sociaux. C'était un anthropologue qui arrivait à rester tout de même très enfant dans tous les sujets qu'il abordait. Et pour lui, l'amour, ben, c'était ça l'essentiel. Alors, je voulais... À 74 ans, c'est fou, c'est trois quarts de siècle, mais on l'aurait pris un autre quart de siècle parce qu'il va beaucoup nous manquer, cette sagesse-là, cette voix-là. Il y en a peu, finalement. Quelqu'un disait ce matin, c'est dommage qu'on rende hommage aux gens comme ça quand ils sont morts. C'est tellement vrai. Hey, pourquoi qu'on n'est pas capable de le dire aux gens qu'on les aime quand ils sont vivants? T'sais? On pourrait s'en parler longtemps de ça. Mais je voulais en tout cas vous en parler parce que même s'il n'était pas sur nos ondes souvent, qu'il était beaucoup à Radio-Canada, je trouve que c'est quelqu'un dont la voix qui portait, qui était fière, qui était une voix sensible, cette voix-là va manquer dans notre espace. Alors voilà, parlons un peu des hommes. Encore très troublée ce matin par un autre chiffre qui vient confirmer ce qu'on sait déjà, c'est-à-dire qu'il y a une grande détresse psychologique chez les Québécois. Les hommes québécois vont pas bien. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, vous le savez, parce que pour moi, c'est beaucoup relié à toutes les questions de violence, aux questions de suicide, aux questions de santé mentale, bien sûr. Et là, il y a un sondage qui a été fait récemment, au mois de janvier dernier. On a interviewé pas mal d'hommes, là, plus de 2700 adultes québécois, dont la moitié était à Montréal, plus de la moitié même. Et ce qui est ressorti, c'est qu'il y a 20 % des hommes à Montréal qui sont en grande détresse psychologique. C'est un homme sur cinq qui est en grande détresse psychologique. Ça, c'est pas rien. C'est pas juste qu'il file pas, là. C'est pas juste qu'il va, waouh, pas une bonne journée aujourd'hui. Non, 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 non. Une grande détresse psychologique, ça veut dire que tu vois pas le fond, là. Ou que le fond, c'est un puits noir. C'est extrêmement préoccupant. Sincèrement, on devrait vraiment faire un état des lieux là-dessus parce que au même titre où on s'est intéressé au sort des enfants du Québec, je pense qu'il faut qu'on s'intéresse de la même façon au sort des hommes au Québec. Je veux dire, c'est l'avenir, c'est notre avenir. Là. Les petits gars qui grandissent en ce moment, qui ont des modèles de pères poqués, qu'est-ce qu'ils retiennent de tout ça? Moi, ça vient me chercher, je vous l'avoue. J'aimerais ça vous entendre là-dessus, puis j'en profite pour à nouveau donner l'occasion aux hommes qui nous écoutent, jeunes, moins jeunes. J'aimerais ça que vous me disiez, d'après vous, qu'est-ce qui va pas? Comment ça se fait? Ça part d'où, cette détresse-là? Elle prend sa naissance où, là, dans votre cœur, à quel endroit de votre cœur? 514-790-9850. De l'extérieur, vous faites le 1-866-790-9850. Je vous présente mes invités. Jonathan Brazeau est avec nous. Il est coordonnateur de Écoute Entraide. Bonjour, Jonathan.
Bonjour, Isabelle.
Geneviève Landry, directrice générale de l'Entraide pour hommes, présidente du regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. Bonjour, Geneviève.
Bonjour Isabelle.
Je vais commencer avec Geneviève là-dessus. Rappelez-nous un petit peu là, ce que dit là, ce dernier sondage sur la détresse psychologique des hommes, Geneviève.
Mais tu l'as nommé en introduction, Isabelle, 20% là, à Montréal en grande détresse. Donc, il y a un homme sur cinq en grande détresse. Et ce qui est assez étonnant et frappant, c'est que le trois quarts d'entre eux n'ont pas osé aller consulter. Donc, trois quarts d'entre eux n'ont pas osé appeler un intervenant ou aller vers des ressources. Moi, ce que ça me dit, Isabelle, c'est bien avant la pandémie, les hommes ont appris, bon, la masculinité traditionnelle, on doit être fort, on doit être compétitif, se débrouiller tout seul, rester debout. Contexte de pandémie, on sent qu'il y a de la tension, on est en état d'alerte et c'est venu alimenter ces attributs-là, c'est venu alimenter la masculinité traditionnelle. Et moi, je l'ai vu sur le terrain à l'entraide pour hommes, là, entre autres à la première vague où, évidemment, tous les organismes, on a dû un peu ajuster nos services, là, certains services en visioconférence où les hommes disaient « Ah, ben tu sais, finalement, je vais annuler mon rendez-vous, je vais attendre après la pandémie, c'est correct, je suis correct, je vais bien aller. » Et ça a été la même chose à la deuxième vague. Donc, on est venu renforcer ça. Et l'autre chose aussi, Isabelle, que tu as nommé, tu disais, ça me touche beaucoup, c'est nos adultes de demain, c'est notre avenir. Moi, ce qui me frappe beaucoup de ce sondage-là, il y a le tiers des jeunes hommes de 18 à 24 ans qui sont en haute détresse. Et ça me touche vraiment. On le voit, ce sont des jeunes qu'on a négligés. On commence le cégep, on commence l'université à distance, sans pouvoir vivre la force du groupe, sans pouvoir échanger, sans pouvoir être confronté dans ses idées. Et là, je me disais, bon, ben, j'imagine qu'après 24 ans, on reprend le dessus. Ben non, les 25 à 34 ans, c'est aussi 1 sur 3 qui sont en grande détresse. Et ce sont les papas de demain. C'est notre avenir. Donc, ça, c'est les deux éléments qui m'ont beaucoup frappé de ce sondage-là.
Ben, les hommes forment la moitié de la société. Quand la moitié de la société va pas bien, ça inquiète. L'autre moitié, c'est sûr. Jonathan Brazo, ça part d'où, là? S'il y a un lieu, évidemment, vous allez me dire probablement que c'est multifactoriel, mais si on essayait d'expliquer tentativement ce qui se passe chez les hommes au Québec.
Mais c'est sûr qu'il y a une grande partie qui vient de l'éducation. Puis quand je parle d'éducation, c'est vraiment comment on va expliquer à notre jeune garçon de parler de ses émotions. Souvent, le jeune garçon va prendre modèle sur son père. Puis on ne se cachera pas que les hommes aujourd'hui qui ont en haut de 50 ans, il y a une grande partie qui ne partagent pas leur émotion du tout. On le voit sur la ligne d'écoute, quand on parle à une personne qui a en haut de 50 ans, c'est difficile de savoir comment la personne se sent. La personne va nous parler, mais dans sa voix, il n'y a pas beaucoup d'intonation, donc on doit creuser plus loin pour trouver, pour aller chercher, pour le faire parler. Contrairement à quand on parle à une femme, c'est beaucoup plus évident. On peut ressentir l'émotion. Donc, on voit que c'est plus profond. C'est difficile pour plusieurs hommes. C'est pas le cas de tout le monde, évidemment, mais pour plusieurs hommes, c'est difficile d'en parler. Puis sur notre ligne, on a quand même 42% des appelants qui sont des hommes. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui nous appellent. Puis je pense que le côté confidentiel, le fait qu'on ne voit pas la personne, on raccroche à la fin, on ne sait pas à qui on parlait. Je pense que pour plusieurs hommes, il y a quelque chose de rassurant là-dedans. Parce qu'il y a vraiment, quand on parle de masculinité, on pourrait appeler, il y a une forme de masculinité qu'on pourrait appeler la masculinité toxique.
Ouais.
Donc, c'est vraiment une partie de l'identité de l'homme qui ne veut pas parler de ses émotions, même qui ne veut pas parler. Souvent, les hommes ne veulent pas parler de... Quand on parle de... En couple, par exemple, quand il y a un problème, ben l'homme, ça ne tente pas trop de parler de ça. Tu sais, pour plusieurs personnes, ils vont voir ça comme étant féminin. Donc, c'est vraiment quelque chose qui enlève une partie de leur virilité. Puis pour beaucoup d'hommes, on le voit dans les personnes qui nous appellent, souvent, les hommes n'ont pas de confident. Les gens vont avoir, souvent, ils vont avoir leur conjointe et leur mère à qui les hommes peuvent se confier. Puis leurs amis de gars, ben tu sais, c'est pas vraiment de ça qu'ils vont parler. Fait que il y a pas vraiment de profondeur qui va se créer quand on parle de sentiments, émotions dans l'entourage de plusieurs personnes. Puis les hommes, quand on regarde le milieu hétéro, les hommes souvent n'ont pas d'amis de filles. Donc c'est vraiment juste des amis de gars qui sont dans leur entourage. Fait que ça aide pas à la confidence.
Ouais. Est-ce que vous avez l'impression, Jonathan, que c'est beaucoup le conflit, les hommes vivent beaucoup le conflit entre la virilité obligé par la société, tu es obligé d'être un gars fort, un petit peu macho, c'est pas méchant, qui aime boire de la bière en regardant du hockey ou qui se tient debout solide devant son barbecue. C'est tous ces espèces de clichés là, qui sont beaucoup véhiculés, mais qui nous renvoient une image d'homme comme ça. Là. Je sais pas comment autrement dire que virilité obligée est très marquée. Puis le conflit avec la sensibilité qu'ils aimeraient pouvoir afficher, mais qui se sentent pas à l'aise de le faire.
Exact. Mais on peut dire qu'un est en direction opposée de l'autre. Tu sais, quand on parle de virilité, on parle de sensibilité. Mm. Pourtant, tu sais, on pourrait dire que la virilité pourrait aller avec la sensibilité.
Ben oui.
Mais quand on parle de masculinité toxique, c'est pas du tout la vision que les hommes ont de leur virilité. Puis quand on parle, exemple, d'un couple, que la femme, exemple, va essayer, quand il y a un conflit dans le couple, la femme va essayer de creuser, de faire sortir justement la sensibilité. Puis pour plusieurs, ce qu'ils ressentent, c'est plutôt le côté qu'on essaie de leur enlever leur virilité. Donc, c'est une partie de leur identité qu'ils ont l'impression de laisser partir pour ces personnes-là. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de cas, on le voit aujourd'hui, si on regarde les jeunes parents là qui ont, mettons exemple, l'homme qui pousse la poussette, c'est quelque chose qui était pas qui faisait pas il y a quelques années, mais aujourd'hui, même en 2021, il y a encore des cas que un homme avec une poussette, ça n'était pas très viril pour certains, puis pourtant, c'est tellement quelque chose qui devrait être normal.
Et on part de loin encore, hein? C'est fou.
Oui, effectivement. Ouais.
On a nos lignes sont pleines. Je vais donner la parole. Vous me permettrez tous les deux, Jonathan et Geneviève, à nos auditeurs. On commence avec vous, Gavin. Bonjour. Comment vous expliquez ça, si on peut l'expliquer, là, cette détresse des hommes au Québec?
Je crois que c'est multifactoriel. Puis ça date pas d'hier. Ça date. Moi, j'ai dans la quarantaine. Puis au début des années 90, on parlait de l'homme rose. On essayait de définir ce que devait être un homme plutôt que d'écouter les hommes pour ce qu'ils sont. On dirait que la définition de l'homme est toujours en fonction de la perspective qu'on leur donne dans les médias, dans le discours public. Mais pourtant, les hommes devraient juste être des hommes, ce qu'ils sont, pas nécessairement suivre les stéréotypes très typiques que vous m'avez mentionnés antérieurement. Ouais. Il faut s'écouter soi-même. Moi, j'étais très réactif à ça dans ma jeunesse. Là, je suis dans ma quarantaine. Maintenant, je me dis, je suis la personne que je suis. Mm-hmm. Et vous aimerez ou vous aimerez pas. Mais lorsque je construisais ma personnalité dans mon adolescence et début de l'âge adulte, c'était toujours en fonction de, bon, qu'est-ce que les femmes aimeraient avoir, qu'est-ce qu'elles cherchent. Puis, je trouve un petit peu le discours, tu sais, hypocrite un peu, parce que les femmes cherchent encore énormément cette image virile de l'homme. Mm-hmm. Et lorsque l'homme montre ses faiblesses, lorsque l'homme prend le risque de s'ouvrir, souvent il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de désir de vouloir déroger de cette image très forte, très très années 50, comme toute une génération d'hommes. Les hommes sont beaucoup plus complexes que ça. Puis
vous
ne
pensez
veut
pas que les jeunes femmes, Gavin, vous parlez, les plus jeunes femmes ou les générations des dernières générations vous semblent pas plus ouvertes? Moi, j'ai l'impression que, en tout cas pour moi, un homme qui parle de ses émotions, qui pleure, qui a un côté féminin fort, je veux dire, c'est ça qu'on, il me semble qu'on recherche, non?
Je ne vois pas, moi, ça, dans les faits, je ne vois pas. Je pense qu'il y a un discours, et c'est là que je vois l'hypocrisie, je pense qu'il y a un discours ouvert de dire « oui, on veut ça », mais dans les faits, lorsque ça arrive, je pense que c'est vu d'une façon négative. Mm-hmm. C'est parce que ça va aussi avec, on en a déjà parlé antérieurement dans votre émission, puis premièrement, j'aimerais vous remercier de parler des hommes à votre émission. Mm-hmm. Très peu de personnes le font dans cette perspective-là. C'est très, très, très intéressant de vous écouter. Mais ça a été parlé dans le passé. Et vous l'avez abordé vous-même dans une émission antérieure. C'est une question de qu'est-ce que ça va aussi avec l'attirance des hommes. Souvent, il y a plusieurs personnes qui sont attirées vers justement ce modèle-là fort, ce modèle-là stable. Et lorsque le côté plus émotif, plus fragile commence à faire à ressortir, bien là, il y a une baisse d'intérêt.
Non, on est
plus
sûr. Hein? Mm-hmm. Ouais.
Le côté attractif est moins là. Et là, on dirait qu'on tombe tout d'un coup un petit peu plus dans la catégorie ami que dans la catégorie partenaire ou partenaire éventuel. Donc,
ouais,
c'est l'homme moderne à avoir à jongler avec tous ces éléments-là.
Ouais.
Puis là, on calcule même pas le, dans cette équation-là toute l'image négative qu'il nous a donnée comme étant, bon, on parle toujours de l'abus que les hommes font vivre à d'autres personnes, l'homme blanc moyen. C'est toujours ces discours-là qui reviennent dans les médias plutôt que les images positives. Il y a eu énormément d'avancement à ce niveau-là au niveau des hommes. Votre invité qui parlait juste avant moi parlait des hommes qui se promènent en poussette. Moi, je sais que chez moi, je participe entièrement aux tâches ménagères. Je participe entièrement à l'éducation de mes enfants.
Ouais.
C'est réellement du 50-50. Mais c'est pas toujours reconnu.
Ouais. Merci, Gavin. Merci bien. C'est un beau témoignage. On va s'arrêter ici et on poursuit tout de suite après. Est-ce qu'on peut expliquer qu'un homme sur cinq soit en grande détresse psychologique à Montréal? C'est une augmentation vraiment importante depuis la pandémie. On s'en doute bien. Beaucoup d'hommes n'ont pas choisi d'aller consulter alors qu'ils en auraient eu bien besoin. Il y en a qui ont dit on va attendre. Évidemment, les lignes d'écoute, Jonathan Brazeau, là, qui est coordonnateur de l'écoute Entraide, nous disait qu'il y a plus de 40% des appels qui sont reçus par son groupe, qui sont donc des hommes qui appellent. Au moins, il y en a quand même quelques-uns qui prennent le téléphone. Et ça, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut vous donner ce matin. Là, si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez démuni, appelez. Jonathan nous donnera son numéro de téléphone tout à l'heure. Geneviève Landry est également à l'entraide pour hommes. Bref, il y a quand même des moyens qui sont là, mais à la base, il faut aussi que les hommes veulent parler. Richard, bonjour. Vous dire, c'est le manque de lien entre les hommes qui fait qu'on vit trop de solitude? C'est un peu ça, vous dites, là, qui pourrait expliquer cette détresse?
Oui. Je vais commencer par vous dire ce que je suis. Je suis un peu un disciple de Guy Corneau.
Mm-hmm.
Et puis, j'ai suivi ses conseils il y a 25 ans. J'ai fait un groupe du Réseau Hommes Québec. Et puis, avant que je sois dans ce groupe-là, moi, je vivais beaucoup, beaucoup d'isolement entre les hommes. Là.
Mm-hmm.
C'était terrible. Là. Je me sentais, même si j'étais avec eux au travail, j'ai toujours été entouré d'hommes là, sur la construction. Je me sentais pas bien. Et puis, j'étais toujours très dépendant de mon épouse à ce moment-là.
Ouais.
Et puis, le groupe a fait en sorte là, que j'ai réussi à créer des liens entre eux, entre nous, entre hommes. Alors, ça m'a beaucoup libéré de mon isolement, mon sentiment d'isolement, et aussi de ma dépendance envers la femme, parce que la femme, si on a tendance, je crois, des hommes, souvent lorsqu'on se retrouve seul, que, on va régler le problème en allant vers une femme.
Mm.
Et maintenant, je ne crois plus ça. Là. Je crois que c'est utile d'être en couple, là, je crois toujours, mais accepter que pour se sentir mieux, il faut avoir des liens avec des hommes. En ce moment, j'ai des liens avec 3-4 hommes, puis ça va très bien.
Ça vous aide.
Il n'y a pas question de homophobie là-dedans.
Tout à fait, tout à fait.
Et c'est des peurs que les hommes ont lorsqu'on leur dit, mais il faut tirer vers d'autres hommes. Et il y a d'autres choses que j'ai faites aussi. J'ai fait des forums. J'étais à Québec et puis il y a eu un forum sur la masculinité à ce moment-là. Et puis, je me rappelle très bien, c'était quoi le message? Il disait que les hommes, il faut qu'ils aillent vers les garçons. Il faut qu'ils aillent créer un lien avec les garçons. Et puis, les obstacles, c'était justement ça. De l'homophobie.
C'est-à-dire le risque qu'on passe pour un, entre guillemets, là, un gay, ou enfin, je veux même pas dire les mots, que encore beaucoup trop d'hommes disent d'ailleurs. Moi, je trouve ça désolant d'entendre des gars là, dans un contexte sportif. On l'entend malheureusement, les gens me l'écrivent, là, le mot en F ou le mot en T. C'est pas drôle, les petits garçons entendent ça. Puis pourtant, il me semblait qu'en 2021, on avait réglé la chose. Là. Tu peux être gay, tu peux être ce que tu veux. On peut-tu laisser les gens vivre? Merci beaucoup, Richard. Merci bien. C'est très juste ce que nous dit Richard. Pierre, vous vouliez parler de la séparation comme étant un des facteurs importants. Puis Richard vient de dire, les hommes souvent vont tout mettre là sur c'est la femme, leur conjointe, leur épouse, qu'elles sentent de leur vie. Puis quand ça se casse ou ça brise, ce lien-là, ils n'en ont plus de lien. Pierre?
C'est une perte de contrôle. C'est l'abandon. Moi, je dis, ça fait des années que je pense qu'il faut qu'on s'occupe de la détresse des hommes. Les hommes ne vivent pas la séparation comme une femme. Moi, je viens d'une famille typique en Abitibi, un père qui travaille beaucoup, ma mère avec 11 enfants qui travaille énormément, évidemment. Mon père prend une décision, ma mère les applique, même si ça fait pas toujours son affaire. Mmh. J'ai 54 ans, moi. Et puis, ça marchait pas si mal pour ce temps-là. C'était correct. Aujourd'hui, les temps ont changé. Mais on dirait que les hommes prennent dans leur génétique encore cette façon de faire-là, de dire que l'homme va décider et puis que la femme va appliquer des décisions ou va suivre.
Pourquoi c'est comme ça, d'après vous? Pourquoi c'est comme
ça? Je ne sais pas, mais il faut vraiment s'occuper. Dans le cerveau d'un homme, ça se passe pas comme dans le cerveau d'une femme.
C'est
vraiment une femme en séparation, en général, là, évidemment, va être triste, va se confier à ses amis. Un homme, c'est un échec terrible. Je l'ai vécu, mais je n'ai pas causé de gestes là, déplacés, mais je l'ai vécu. Là. On perd le contrôle. Les amis, les voisins, c'est une honte. Là. On a un échec. Là. C'est pire que perdre son emploi, évidemment, puis on voit pas de lumière au bout du tunnel, on voit pas de lendemain, de possibilité. À toutes les fois qu'arrive un drame à la télévision, j'en viens, des larmes aux yeux. Il faut qu'on s'occupe de la détresse des hommes, faut qu'on fasse des études, faut qu'on le montre. Puis moi, ce que je crois là, aujourd'hui, c'est que quand on commence une relation, il faudrait déjà s'occuper de la séparation. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de couples qui durent toute la vie. Oui, idéalement, on voudrait tous ça. Là. Mm. Mais si on s'occupe tout de suite de la séparation, on va pouvoir déterminer des choses à l'avance, de dire, ben, si on fait que 5 ans, 10 ans, 20 ans, ben, c'est toute notre vie, tant mieux. Là. On veut tout ça. Mais si on s'occupe déjà de la séparation puis de mettre des choses en place, je pense, là, je ne suis pas un spécialiste de la psychologie, mais peut-être que ça va améliorer certaines choses.
Merci beaucoup, Pierre. Merci bien. Carole, bonjour.
Bonjour, Isabelle. Moi, j'avais un petit commentaire, en tout cas sur l'ensemble, quand on dit qu'un homme, ça n'a pas le droit de pleurer, ça n'a pas le droit de montrer ses émotions. Même toi, tout à l'heure, c'est pas un reproche, mais c'est une observation, c'est que tu disais à l'autre personne qui a appelé, avez-vous peur de montrer votre côté féminin?
Mm-hmm.
Et pourquoi c'est un côté féminin?
Mais savez-vous quoi? Vous avez tellement raison. Je venais de le dire que je me suis dit, voyons, pourquoi t'as dit... J'ai tellement pensé la même chose. Merci de le dire parce que je l'ai écrit puis je me suis dit, tiens, il faudrait arrêter de dire le côté féminin des hommes puis le côté masculin. Je l'ai marqué. Preuve ici à l'appui.
Bon, ben...
Féminin. Vous avez raison, Carole. Oui, c'est vrai.
Parce que c'est
une façon vulgarisée. J'essayais de vulgariser pour que tout le monde comprenne. Mais vous avez raison. Il y a des affaires, il faudrait qu'on se lave la bouche après. Ouais.
Oui, parce que ce que ça fait, c'est que le monde comprenne, mais le monde comprenne que quand tu pleures, t'es une petite fille.
Oui. Bon, remarquez, on dit aussi courir comme une fille. Hein? Fait qu'il y a bien des affaires qu'il faudrait qu'on arrête de dire. Parce que les filles courent pas toutes mal. Moi, je pourrais en accoter quelques-uns.
C'est ça. Si c'est normal, je pense que tout le monde, moi-même, j'étais porté à dire ça. C'est une expression qui...
Mais vous avez raison, ça passe par le vocabulaire. C'est vrai. Vous avez raison.
Ouais.
C'est vrai, c'est un bon point. Merci, Carole. Est-ce qu'on fait un autre petit bloc là-dessus? Il y a des gens qui veulent intervenir. Là, je parle à mes recherchistes, je les regarde. On devait parler des plantes et tout. Puis un petit bloc tout de suite après la pause parce que je voudrais pas vous laisser comme ça. On revient tout de suite après. Ben, vous allez voir, la beauté de la radio, c'est que c'est un médium comme ça, de proximité. Puis je sens qu'il y a beaucoup d'hommes là, qui ont envie ce matin de parler de la détresse qu'ils vivent. Et je trouve que c'est un sujet important. Donc, vous êtes là, on va vous donner de l'espace, on va vous faire de la place. Merci à mon invité, Albert Bondor, l'horticulteur. Il revient demain, il est tellement fin. Vous manquerez pas ça demain, ses conseils. Il dit, ça fait du bien aux gars d'aller jouer dans la terre et aux femmes d'ailleurs. On est avec nous, Mario. Bonjour, Mario. Comment vous voyez
ça,
vous?
Ça va bien, Isabelle?
Oui, ça va bien.
Je vais faire ça vite, donner la chance aux autres. Moi, j'ai fait deux thérapies, Mélaric Carignan, tu connais ça?
Oui.
Et puis, c'était la plus belle chose dans ma vie. J'ai toujours dit, là, depuis des années, là, le gouvernement devrait obliger une heure de psychologie aux tous les étudiants à partir d'un certain âge, selon les professionnels, au lieu d'éliminer d'autres cours. Il est là le problème. Les gens n'expriment pas leurs sentiments. C'est ça qu'il faut faire dans notre éducation quand on est jeune. Il est là le problème. Les prochaines générations, ça va être différent. Tant que ça ne changera pas, ça n'arrivera jamais. Apprendre aux jeunes à exprimer leurs sentiments à partir de la jeunesse.
Ouais.
C'était mon point de vue.
Mais Mario, là-dessus, vous avez raison, puis on pourrait être rassuré si on ne voyait pas les chiffres dont Geneviève Landry parlait tout à l'heure. Dans la grande détresse là, des hommes québécois au moment où on se parle, après le sondage là, de janvier dernier, on remarque que le tiers, si un homme sur cinq vit de la détresse à Montréal, c'est un jeune homme sur trois. C'est encore pire chez les jeunes hommes.
C'est épouvantable, c'est ça, les jeunes, c'est parce que les parents, même moi, mon frère, il exprime pas ses sentiments, puis, tu sais, quand t'aimes quelqu'un, t'as pas peur de dire, mais les gens, ils le font pas, ils font des détours, ils parlent pas, le monde, sont pas réalistes, ils parlent pas des vraies affaires, c'est toujours du superficiel.
C'est pour OK, ça que ça va pas bien la bière, les chums, les voitures, plein, c'est ça?
Moi, j'étais un tof, là, whoop, le gars te coupe, moi, je suis camionneur, puis... C'est pareil comme l'éducation, vite fait, là. J'ai toujours dit au gouvernement, aux États-Unis, le monde chauffe bien. Pourquoi vous apprenez pas aux jeunes, dans le cours de conduire, quoi ne pas faire à un camionneur, à un qui fasse un camion pour votre sécurité? Ouais. Puis il se passe rien. Il n'y a pas de volonté au niveau de la politique. Et je m'adresse aux politiciens, là. Si vous attendez ces deux choses primordiales, que dans 50 ans d'ici, là, la société va être différente. Sans ça, ça ne changera jamais. On s'en va dans le mur. Moi, ça me décourage. Je suis tellement découragé de voir aller le monde, là. Exprimer vos sentiments. Arrêtez de jouer au caïd, là.
Oui, exact. Hey, vous lirez du diesel dans les veines. Vous allez aimer ça, Mario. La saga des camionneurs du Nord par Serge Bouchard et Marc Fortier. Vous allez aimer tellement ça. Merci de votre appel. Hervé est avec nous. Bonjour, Hervé.
Bonjour, Isabelle. Moi, j'étais un jeune homme de 57 ans. Puis, j'avais de la misère à prendre quelqu'un dans mes bras. Puis c'est mon garçon de 36 ans qui m'a montré c'est quoi un calais. Ça te donne une idée.
Et pourquoi vous aviez de la misère, Hervé? Jamais personne ne vous l'avait fait à vous?
Ça se montrait pas, nous autres, parce que chez nous, on est 14, puis ça se montrait pas, puis un homme, c'est un homme, puis ça reste drette, puis il y a eu aussi d'autres petites affaires dans mon enfance qui s'est passé, que les hommes étaient loin pour moi. Fait que moi, les hommes, je les aime bien, là, mais j'ai deux amis, point, puis je les appelle pas bien. C'est deux amis dans ma tête. Puis c'est comme ça, tu sais, c'est... Mais par contre, j'ai appris à serrer un homme dans ma main, si je le connais, grâce à mon garçon. Puis c'est même encore, j'ai un peu de difficulté, mais je le fais toujours.
Ah ouais. Restez à l'écoute, on va prendre vos coordonnées, Hervé. Mais j'aurais aimé ça prendre les coordonnées de Mario aussi. Mario, rappelez-nous, j'aimerais ça garder un lien avec vous. Sandra nous appelle. Bonjour Sandra, je suis contente aussi de vous parler parce que on parle des jeunes hommes, un sur trois, là, entre 18 et 35, en grande détresse également. Ouais, votre fils a 21 ans, parlez-moi de lui.
Oui, ben récemment, moi, mon fils filait pas super bien. Puis comme mère, ben j'ai pris du temps pour lui poser des questions, comment ça va. Puis ça a pris tout son petit change pour qu'il me dise que finalement la pandémie lui avait rentré dedans. Puis ça m'a donné un choc parce que on est en 2021, on est une famille quand même très ouverte.
Ouais.
On discute beaucoup, mais il y avait encore le préjugé de dire ben qu'est-ce que ma mère va penser de moi, qu'est-ce que mes chums vont penser de moi. Il y a un manque de dialogue avec nos enfants, je crois. Selon moi, là, la génération de 20 ans, en tout cas, ils ont encore de la difficulté à s'ouvrir.
Et pourtant, vous dites, on est une famille, on jase, on discute. Est-ce que vous aviez pris pour acquis qu'il avait l'air de fonctionner, donc il allait bien?
Oui, il allait bien. Selon moi, là, il allait bien. Mais dans le fond, il était plus renfermé, j'avais vu même une différence, il était plus agressif que d'habitude, puis c'est un jeune homme qui est positif dans la vie, qui est joyeux, puis finalement, ça cachait qu'il allait pas super bien, là. Fait que je me dis qu'il y a encore beaucoup de préjugés.
Et est-ce que vous pensez qu'il y a besoin peut-être d'en parler avec... Parce qu'il y a l'aide aussi psychologique, c'est pas évident d'en trouver là, pour les jeunes. Puis si on pense même aux mineurs, là, aux ados, les 14-18, parce qu'avant d'avoir 18 puis 35, t'as 14, t'as 12, 14. Les petits gars aussi, c'est pas facile à l'école, ça commence là. Puis c'est difficile d'avoir des pédopsychiatres, là, des psychiatres qui s'intéressent, ils s'intéressent, mais ils sont pas disponibles parce qu'il y en a pas assez, d'avoir des psychologues scolaires. Je me souviens, d'une plusieurs années, on a beaucoup coupé dans ces postes-là aussi pour des questions budgétaires. Ça manque, ça fait défaut. C'est parce que ça prend des lieux de parole, hein, Carole?
Oui. Oui, moi, mon fils, il a réussi à avoir une consultation avec un psychologue. Par téléphone, mais ça lui a vraiment fait du bien.
Oui. Je vous appelais Carole, je voulais dire Sandra. Merci, Sandra. Merci beaucoup.
Merci à vous. Bonne
Merci
journée.
Beaucoup. Je me tourne vers mes invités, Geneviève Landry, Jonathan Brazeau.
Oui.
Geneviève, bon, on a entendu beaucoup d'hommes. On a entendu Sandra qui parlait de son fils de 21
oui.
ans. C'est vrai que ça prend des lieux, mais... T'sais, là, on parlait du fait que les hommes, ils vont pas, mais pour les jeunes gars, moi, c'est, il y a les plus vieux qui nous appellent puis qui l'ont fait un peu à la dure, là, l'apprentissage de la parole, la communication, mais les jeunes garçons, comment les aider?
Isabelle et Sandra le nommaient, de reconnaître qu'un homme ne va pas bien, c'est difficile parce qu'il l'exprime pas de la même façon. Mmh. Que ce soit de la dépression ou autre chose au niveau de la santé mentale, Sandra a mis le doigt dessus. Chez les hommes, ce qu'on va voir, c'est des sautes d'humeur, l'irritabilité. Il ne fonctionne pas dans sa routine quotidienne. Ça, c'est les indices là, à reconnaître. Un homme qui a une grande carapace, ça va être beaucoup plus difficile pour lui de sentir les signes, d'où l'importance d'avoir des gens autour, que l'entourage puisse se permettre, même si c'est difficile de dire ça à un gars, mais puisse se permettre de dire « Je trouve que tu as changé, je pense que tu ne vas pas bien, ça serait bien que tu puisses aller consulter. » Et ce que j'ai envie de dire aux gars, Isabelle, c'est quand tu casses une jambe, là, tu ne te poses pas la question, tu t'en vas à l'hôpital, tu te demandes pas « Faut que tu chiales, faut que tu chiales pas, tu as mal, ta jambe est cassée, tu y vas, point, ça se termine là. » Ben les gars, quand ta santé mentale va pas bien, pose pas de questions, prends le téléphone puis appelle. C'est le même principe. La santé physique est aussi importante que la santé psychologique. C'est un peu le message que j'ai envie de dire aux auditeurs.
Est-ce que tu penses, parce que je retiens entre autres ce que Richard disait tout à l'heure. Il dit que ça manque de lien entre nous.
Oui.
Gavin aussi disait que ça, les hommes se cherchent, ça prend des lieux où ils se retrouvent entre eux. Pierre disait on vit pas bien la séparation. Moi, j'ai l'impression que les gars, faut qu'ils se parlent entre gars aussi. Toi qui es une femme dans un monde d'entraide pour hommes, j'ai quelqu'un qui m'écrit, posez-vous la question, qui est-ce qui éduque les gars? Il n'a pas mis la réponse, mais il s'attendait à ce que je dise, ah ben oui, c'est des femmes, c'est peut-être un peu la faute des femmes. Toi qui es là-dedans, Geneviève, est-ce que tu te dis des fois, ben peut-être que peut-être ça devrait être un gars, peut-être que ça devrait être des intervenants plus. C'est vrai qu'à l'école, entre autres, il y a beaucoup de femmes enseignantes.
En fait, nous, Isabelle, notre modèle est le suivant. C'est pas un groupe de 8 gars. Fait qu'ils sont déjà en gars, là. Fait mm-hmm. les participants, c'est des gars. Et les intervenants de groupe, c'est un homme et une femme. Pourquoi? Parce qu'on promouvoit les rapports égalitaires. Puis parce que dans la société, tu vas être interpellé à avoir des liens avec des gars, puis tu vas être interpellé à avoir des liens avec des femmes.
Mm-hmm.
Et souvent, lorsqu'on a fait des petites recherches, on a travaillé avec des chercheurs et il y a eu une recherche là-dessus. Et les hommes, ce qu'ils disent, c'est intéressant, les participants, c'est intéressant d'avoir une animatrice aussi dans le groupe parce que ça me permet de pratiquer, de savoir comment parler à une femme. Ça m'a aidé à mieux communiquer avec ma femme, communiquer
mm-hmm.
avec mes enfants, puis à comprendre qu'on ne fonctionne pas pareil. Et c'est mieux détruire les stéréotypes. Si au début, le participant, il dit « Ah, ben Geneviève, elle va parler d'émotions parce que c'est une fille. » Puis Luc, ben lui, c'est un gars, fait qu'il va nous confronter. Et là, ce qui arrive dans le groupe, c'est le contraire. Luc peut parler d'émotions et moi, je peux te confronter sur des pensées erronées. Alors, ce participant-là dit « Ben dans le fond, ce que j'en comprends, c'est que Luc, c'est un gars, je trouve qu'il a de l'air viril, puis il parle d'émotions, fait que moi aussi, j'ai le droit. Puis Geneviève, qui est une femme, ben, elle a le droit d'avoir ses opinions, puis elle a le droit de les nommer. Donc, ça vient aussi détruire les espèces de stéréotypes que l'on porte. Et si on regarde plus au niveau des recherches, honnêtement, les hommes, ce qu'ils disent, c'est peu importe qu'ils ont devant eux une femme ou un homme, que ce soit un psychologue ou un travailleur social, ce qui est important pour un homme, c'est se sentir écouté, ne pas se sentir jugé et de pouvoir parler de sa version des faits. Souvent, ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de place pour parler de leur version à eux. Ils ne se sentent pas écoutés. Donc, ce sont les prémices de base là, pour faire en sorte qu'un homme se sente accueilli puis qu'il puisse aller plus loin. Mais effectivement, les hommes doivent aussi communiquer entre eux, réfléchir effectivement sur la masculinité. Mais d'abord et avant tout, il faut être capable de reconnaître. c'est ça qui est le plus difficile, reconnaître ici, je ne vais pas bien.
Ah, oui, tout
évidemment,
à fait.
De connaître les ressources. Ça, c'est un autre barrière.
Ouais. Geneviève Landry, reste avec nous. Jonathan Brazeau de Côte en Traite également. J'ai un message ici de Claude. Et puis, il y a beaucoup d'hommes qui m'écrivent seuls. Puis, son message va résumer ce que beaucoup m'écrivent, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont vraiment beaucoup de misère à même aller s'ouvrir à un autre homme pour toutes sortes de raisons. Et Claude dit qu'il a été violé par deux aides cultivateurs que son père avait embauchés quand ses frères et lui étaient jeunes, puis ils travaillaient dans les champs, à la ferme. Il dit ce qui fait qu'en sorte que je me suis toujours méfiée des hommes, que j'ai jamais eu d'amis masculins. Et si vous saviez le nombre de gars qui m'écrivent, qu'ils ont eu des attouchements, qui ont vécu de l'inceste, qu'ils ont été agressés sexuellement, puis ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est pas question qu'un homme qui se confie à un homme. Il y a ça aussi. Au Québec, on a vraiment eu cet enjeu-là. Longtemps, ça a été, c'est majeur. Fait que ça fait du dommage. On revient tout de suite après. Annick m'écrit qu'elle a deux fils de 19 et 20 ans, puis elle dit, sincèrement, c'est difficile de les faire parler. Même si on parle beaucoup en famille, le confinement pèse très lourd. Un des deux à consulter, mais il n'est pas retourné. Aussi difficile à ouvrir que des huîtres au niveau des émotions. Pas toujours facile à gérer comme parent. David, bonjour. Merci de nous appeler. Vous avez 29 ans, puis vous venez tout juste de recevoir un diagnostic de dépression.
Ben oui, c'est en me rendant compte que j'arrivais pas à remonter la pente. Tu sais, des coups difficiles, des moments difficiles, ça arrive. Quand on n'arrive pas à remonter la pente, puis qu'on se rend compte que tout seul, on n'est pas capable, faut aller chercher de l'aide. Puis, j'ai pu aller chercher de l'aide à ce niveau-là. Donc, on m'a diagnostiqué hier, oui.
Bon, ben tant mieux, tant mieux. Puis, est-ce que vous remarquez que les plus jeunes, comme les plus vieux hommes, ont toujours ce problème de virilité, de gérer leurs émotions, de communication? Parce que on aurait pu espérer que les plus jeunes hommes, c'était un peu plus réglé pour eux, mais quand on voit les chiffres de détresse, ça l'est pas du tout, au contraire.
C'est là qu'on voit que la masculinité traditionnelle, vous en parliez, la masculinité toxique, aussi, on peut aller plus loin. Ça existe, c'est certain que c'est un phénomène qu'on contrôle pas puis que ça s'enseigne pas. C'est le principe que c'est traditionnel, c'est que sans même le développer, on reproduit des schémas puis on prend sur soi, on accumule puis on se dit que ça peut passer. Mais passer une vie comme ça à dire que ça va passer, c'est pas bien puis ça peut juste faire en sorte qu'on peut aller complètement au bout. Puis j'encourage tout le monde qui écoute, si on des doutes, faites juste demander, appelez votre médecin de famille ou les premières ressources. Parlez-en autour de vous.
Restez pas tout seul. Merci, David. Puis prends rétablissement. Martin, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute, Martin.
Moi, c'est ça. Moi, j'étais en séparation, là. Puis, elle m'a mis dehors, cul par-dessus tête. Puis, disons que j'ai pas de ressources du tout. Je peux pas aller chercher mes trucs chez moi. J'étais hébergé chez quelqu'un en ce moment. Puis, je trouve que.
Comment ça, vous pouvez pas aller chercher vos choses chez vous?
Elle veut pas que j'y aille, là, avec la police. Puis, là, j'étais avec des avocats là-dedans et tout, là. Mais elle invente des histoires, elle m'a sorti de la maison, elle a inventé des histoires puis tout, là, puis là, ça va être à moi de prouver que c'est pas vrai, puis c'est toujours une version, c'est jamais les deux. T'sais, moi, dans ma vie, là, il y a toujours deux côtés d'une médaille. Il y a sa version à elle, la mienne, puis la vérité. Mm-hmm. C'est toujours nous, les hommes, qui est condamnés en premier, puis je trouve ça vraiment désolant que c'est nous autres qui se mettent dehors, cul par-dessus tête. Moi, j'ai toutes mes affaires là-bas, je peux pas aller les chercher. J'ai une morale à zéro, je suis à terre complètement, j'ai un petit garçon que je peux même pas voir, ça fait 3 semaines que je l'ai pas vu, elle veut plus que je le vois, je trouve ça vraiment complètement difficile, là. Je comprends pas, c'est mais... déjà condamné avant que ça arrive.
Ben oui. Êtes-vous violent, Martin? Avez-vous été violent?
Non, j'ai pas été violent.
Alors, il y a pas de raison d'avoir... ce genre d'attitude, là, c'est, vous avez le droit d'aller chercher vos affaires chez vous, puis vous avez le droit de voir votre enfant. Il y a des lois au Québec pour ça, là.
C'est
parce que c'est pas vrai, là.
Ça fait longtemps que ça se règle et tout, là, puis je t'arrête de capoter, là. Je trouve pas ça drôle du tout, là.
Mais non. Mais je veux dire, c'est pas vrai, là, que les hommes n'ont pas de droit, là. Il y en a. Merci, d'ailleurs. Je vais me tourner vers peut-être mes invités. Geneviève, voulez-vous dire quelque chose là-dessus, peut-être à Martin?
Mais en fait, j'ai envie de dire à Martin d'aller consulter une ressource, là. De toute évidence, c'est difficile, la situation qu'il vit. Il sent beaucoup d'injustice. Donc, mais ça serait important de prendre ça là, avant que ça devienne très gros. Mm-hmm. Effectivement, je le disais tantôt, la majorité des hommes qui consultent ont l'impression, puis qui sont en processus judiciaire avec des avocats ou avec des policiers, ont l'impression, effectivement, que leur version des faits n'a pas été écoutée. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer au Québec, Isabelle. Que tu aies raison ou pas, de toute façon, dans une chienne de couple, là, les deux ont des versions différentes parce que ce que j'ai retenu, l'intensité de mon émotion va venir changer ma vérité à moi. Donc, ça serait important de pouvoir les écouter. Ça enlèverait beaucoup le sentiment d'injustice et ça diminuerait l'anxiété de beaucoup. Là.
Tout à fait. Merci beaucoup, Geneviève Landry, Entraide pour hommes. Jonathan Brazeau, écoute Entraide. Avez-vous un numéro, Jonathan, pour les hommes qui nous écoutent?
Oui, le numéro pour nous joindre partout au Québec, c'est le 1-855 en ligne. Donc, c'est un numéro sans frais pour tout le monde. Fait n'hésitez pas à nous appeler si vous avez envie de partager. On n'est pas là pour juger. Ça va nous faire plaisir de parler avec vous.
Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup à tous les hommes qui ont pris la peine, le temps de nous appeler et de nous raconter un peu comment ils se sentaient. On va refaire ça. Merci à tout le monde. À demain.